France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Léa Salamé, une fois n'est vraiment pas coutume le vendredi, mais nous tenions absolument à recevoir ensemble ce matin un grand intellectuel français, l'un des derniers à avoir traversé le XXe siècle, résistant pendant la guerre, ayant critiqué, quitté le communisme tellement plus tôt que beaucoup d'autres, un penseur de la complexité, un penseur transdisciplinaire et indiscipliné, comme il se présente au dos du livre de mémoire qu'il publie en cette rentrée intitulé « Les souvenirs viennent à ma rencontre » aux éditions Fayard. Sur Twitter, car oui, il est aussi sur Twitter, il a célébré son 98e anniversaire d'une question poétique. « Est-elle venue la saison, avec mon anniversaire, d'atteindre l'âge de raison ?» Ou n'est-ce pas nécessaire? Bonjour Edgar Morin.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin en studio. On est très heureux de vous recevoir. Je le disais d'un mot, vous êtes le penseur de la complexité, celui qui a inlassablement cherché toute sa vie à démontrer que le savoir, les sciences, les disciplines ne doivent pas être des blocs isolés les uns des autres. Car la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie, ce sont des croisements, des hybridations, des hasards et des vagues. Est-ce pour cette raison, mon cher Edgar Morin, que vos mémoires ne sont pas chronologiques, linéaires, mais construites comme une série d'étoiles autour d'hommes, de femmes, de rencontres, d'amitiés, d'amour, de pays, de villes, de continents que vous avez traversés? Vous ne vouliez pas la ligne droite et vous avez préféré l'arabesque?
C'est surtout, je ne voulais pas faire une autobiographie. J'ai déjà fait de l'autobiographie intellectuelle, mais je voulais beaucoup plus rappeler tout ce qui m'a ému dans la vie, tout ce qui a frappé ma sensibilité, tout ce qui m'a étonné. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas commencer par raconter chronologiquement ma vie. Je vais laisser jaillir selon l'inspiration, selon la... Et vous savez, un souvenir en appelle un autre, qui en appelle un autre. Pour vous donner un exemple, le jour où j'apprends la mort de Mario Soares, qui a été pas seulement le président de la République portugaise, mais qui a été un héros au moment de la révolution des œillets, qui a joué un rôle très important, qui était un ami. Aussitôt, j'ai écrit mes souvenirs sur Soares et tous mes souvenirs d'amis portugais pendant la période de la dictature me sont revenus, etc. Donc, si vous voulez, j'ai laissé venir les souvenirs et non pas, je ne les ai pas cherchés à les arracher de la mémoire.
Et pourquoi commencer vos mémoires, Edgar Morin, par des rencontres avec la mort? Est-ce parce que, à peine être né, vous avez failli mourir, ou parce que l'événement fondateur de votre vie a été la mort de votre mère quand vous étiez très jeune?
Écoutez, je crois que c'est pour toutes ces raisons-là. Je crois que effectivement, d'abord, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça. Je dois dire que c'est venu comme ça, et parce que ça m'a, vous savez, j'ai dans les années dernières, enfin dans les dernières décennies, on a beaucoup réfléchi sur la vie des embryons, ce qui se passe, etc. Et du coup, moi, je m'étais imaginé résistant aux produits abortifs que prenait ma pauvre mère, qui avait une lésion au cœur. Bref. C'est un peu ça qui m'a intéressé, des souvenirs, d'avant les souvenirs, d'avant la naissance, mais qui sont sûrement dans ma tête.
Parce que alors, vous naissez au monde pour raconter votre vie, puisque il s'agit de cela. Vous naissez au moment où vous sortez, vous êtes quasiment mort.
Voilà. J'ai le cordon ombilical autour du cou, je sors par le siège, je suis mort. Et il a fallu que le gynéco me prennent par les pieds, me donnent des gifles pendant une demi-heure, et puis que je pousse le premier cri. Ça, c'est... Et puis, il faut dire aussi que l'événement capital de ma vie, c'est la mort de ma mère.
Vous parlez d'un Hiroshima intérieur.
J'avais 10 ans, c'était fils unique, puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Et non seulement cette mort a été affreuse, elle a... Quelque chose de plus affreux, c'est que mon père, voulant bien faire, ne m'a pas dit qu'elle était morte, m'a raconté un voyage imaginaire, que moi, dès le début, j'ai tout compris parce qu'il était habillé tout en noir, et que ma famille me mentant pour bien faire, moi, j'ai pris ce mensonge en haine, et donc j'ai vécu seul, avec non seulement le chagrin, mais devant le cachet à mes parents. Et donc, et je me suis fait moi-même en allant avec mes lectures. Heureusement, je lisais beaucoup, beaucoup, et c'est au cinéma. Donc, c'est un événement important. Puis, il y a eu les morts, le risque de mort pendant la résistance, les amis morts. Et donc, si vous voulez, c'était un peu... Oui. Je crois que c'est ça qui m'a poussé à commencer avec tous ces rendez-vous qui ont été innombrables pendant ma vie.
Avec la mort.
Voilà, avec la mort, mais il y a l'amour aussi. Hein. Il y a Thanatos ne gagne pas, hein. Il y a Eros également. L'amour, les femmes sont partout dans vos mémoires, Edgar Morin. Vous écrivez « Sans combustion amoureuse, je ne suis rien ». Qu'avez-vous appris de l'amour ? Qu'avez-vous appris grâce à l'amour et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Tout d'abord, je dois dire que j'ai vécu l'absolu de l'amour avec ma mère. Et la perte de cet absolu m'a donné envie de retrouver quelque chose, non pas qui ressemble, mais de retrouver la communion, la fraternité et aussi l'amour lui-même. Donc, si vous voulez, c'est ce besoin affectif est très important et je me suis rendu compte que, par exemple, pour écrire mes œuvres et surtout les plus difficiles comme La Méthode, j'avais besoin de cette combustion amoureuse. Et donc, si vous voulez, je dois dire que actuellement, par exemple, enfin, il s'est trouvé qu'à 80 ans passés, puisque ça c'était en 2009, j'ai retrouvé l'amour après le décès de ma femme Edwige avec Saba, et que tout ceci est absolument vital pour moi. Bien entendu, j'aurais pu vivre la tristesse et la solitude et la résignation, mais ceci m'a fait non seulement continuer, mais réexalter ma propre vie.
Y a-t-il une qualité commune à toutes les femmes que vous avez aimées ? Est-ce que vous avez aimé un certain type de femme ?
Peut-être pas un certain type, elles étaient très différentes, mais elles avaient toutes quelque chose de commun. Elles avaient beaucoup souffert dans leur enfance, comme moi-même. Ainsi, par exemple, pour parler de Saba...
Votre actuelle épouse, qui est là d'ailleurs, qui vous a accompagné ce matin.
Son père... qu'elle adorait, est mort quand elle avait 10 ans, comme moi, ma mère avait 10 ans. Elle a vécu seule, dans sa famille, incomprise de sa famille, comme moi, j'ai vécu incompris. Elle s'est faite elle-même, à travers ses lectures, elle a découvert Dostoïevski au même âge où je l'ai découvert. Elle a un peu, après, milité au Maroc. Etc. Donc, si vous voulez, il y a des choses communes. Mais aussi bien Violette, ma première femme, elle a beaucoup souffert quand elle était petite parce qu'il y avait un adultère de sa mère par rapport à son père et qu'elle voulait partir avec les bohémiens.
Ouais. Oui. Alors, il y en a une, en revanche, avec qui ça n'a pas fonctionné. Il y en a une avec qui ça n'a pas fonctionné. Marguerite Duras. Ah. Les pages sont magnifiques où vous racontez votre relation platonique avec Marguerite Duras, platonique par votre faute. Pourquoi ça n'a pas marché ?
Écoutez, ça n'a pas marché parce que nous vivions une communauté et elle était liée avec mon très cher ami Dionys Mascolo. Nous vivions ensemble, j'étais déjà avec Violette. Et pour moi, cette chose que je désirais très fort, j'étais toujours inhibé au moment de la réaliser, parce que je pensais à Violette, je pensais à Dionys, et tout ceci faisait que je n'arrivais pas au moment où chaque fois j'étais
sollicité.
Alors
vous le racontez, si je peux me permettre, quand nous dansions ensemble avec Marguerite Duras, quand nous dansions ensemble à nos fêtes, le désir me venait, elle me déboutonnait la braguette, et ce geste, au lieu de délivrer mon désir, l'inhibait. De même, au cours d'un voyage ensuite en Suisse, elle se mit nue dans sa chambre, où je devais passer pour aller à la salle de bain, et je fis l'ignorant.
Oui. Voilà, c'est ça.
Et du reste, vous êtes resté amant virtuel, comme vous le dites.
Mais oui.
Mais amant.
Et oui, et puis vous savez, sur le tard, elle me l'a reproché parce que, au cours d'une émission de radio où on commence, m'a pas interrogé sur elle. Moi, je dis seulement, c'est la reine des abeilles, j'évoque tout ce, bon, ce règne qu'elle avait sur nous. Et on lui passe à elle ce que je dis, et elle a la radio, je l'entends, et elle dit « Mais non, Edgar, d'une voix railleuse, mais non, c'est qu'on aurait dû avoir une histoire ensemble et qu'on n'a pas eu.
» Edgar Morin, vous dites que votre premier souvenir politique, c'est le 6 février 1934,
oui.
Quand les ligues d'extrême droite fascistes tentent de prendre l'Assemblée nationale à Paris. Ces derniers mois... Beaucoup ont dit, politique comme intellectuel, que nous vivions une époque peut-être comparable aux années 30. Vous qui les avez vécues ces années-là, est-ce que vous voyez des ressemblances ou est-ce que la comparaison n'a pas lieu d'être ?
L'un et l'autre. Je veux dire que, d'abord, les périls, il y a des périls, mais ils ne sont pas du tout de même nature. À l'époque, c'était... La prise de pouvoir par Hitler et la nation allemande avec la doctrine nazie et raciste avait l'intention de coloniser l'Europe. Du reste, ce qu'elle a fait. Le pouvoir, c'était une puissance hégémonique, à la différence de la guerre de 14 où ce sont différents impérialismes qui sont affrontés. Et à la différence de maintenant où c'est pas du tout ça, les périls sont d'un autre ordre. Il y a le péril écologique et la dégradation de notre biosphère. Il y a le péril économique d'une économie déréglée qui risque de retomber dans la crise. Il y a les multiples fanatismes qui surgissent. Il y a l'absence de conscience d'une communauté de destin humaine. Il y a, bref, si vous voulez, on est entouré. Et le futur qui était promis comme un progrès jusqu'à la moitié du 20e siècle, personne ne croit au futur, une angoisse terrible saisie. Alors, le point commun aussi, c'est l'angoisse, c'est pas la même
angoisse. Vous sentez la même angoisse aujourd'hui
que vous aviez ressentie il y a
80 ans? Vous ressentez cette angoisse aujourd'hui?
Tout à fait.
Elle est de même nature?
Elle est de même nature, c'est-à-dire elle trouve à peu près des boucs émissaires. C'est-à-dire qu'à l'époque où il y avait donc cette crise économique, où il y avait cette crise de la démocratie, où il y avait cette menace de guerre, les gens se refermaient et il y a eu la tendance, disons, à un hyper-nationalisme et une peur de l'étranger. Il y avait, on dénonçait les métèques, les immigrés, etc., comme aujourd'hui, il y a beaucoup de ressemblances, mais la conjoncture n'est pas la même. Aujourd'hui, le péril est au niveau de la planète. C'est une planète en convulsion, dont on ne sait pas où elle va, et les gens ne prennent pas conscience d'une communauté de destin. Et comme ils n'ont pas conscience, on est somnambule, comme à l'époque.
Donc pour vous, le péril écologiste est plus grave aujourd'hui, plus dangereux que le péril populiste?
Vous savez, c'est pas des choses qui se mesurent quantitativement, mais je crois que, de toute façon, ce sont deux périls de même nature qui coïncident dans le temps et que je pense que l'un ne pourra que favoriser l'autre. Regardez Bolsonaro, qu'on peut appeler une sorte de néo-post-démocratie, disons, pour être poli, c'est quelqu'un qui se fout complètement de ce qui peut arriver, non seulement en Amazonie, qui est un trésor de l'humanité, mais de dégradation, comme Trump. Donc, si vous voulez, en général, ces nouveaux chefs, qui en général sont très complaisants pour les pouvoirs de l'argent et du profit absolu, tendent à nier le problème écologique. Mais vous avez raison, on voit un des périls aujourd'hui, c'est que dans le monde entier surgissent ces systèmes néo-autoritaires. À peine c'est arrivé au Brésil, voici qu'en Inde, on prend des mesures atroces à l'égard d'une minorité importante.
Edgar Morin, parvenez-vous à rester optimiste, malgré tout? J'ai l'impression que vous parvenez à rester optimiste. Si oui, pourquoi et comment?
Écoutez, moi je refuse l'alternative optimiste et pessimiste. D'abord, j'ai constaté dans ma vie que les optimistes, ils avaient toujours des mauvaises surprises, mais que les pessimistes pouvaient avoir parfois des bonnes surprises. Mais en dehors de cela, moi je pense, j'ai toujours pensé que les probabilités, c'est-à-dire quand on voit ce qui doit se passer en suivant le courant de l'histoire d'aujourd'hui, sont très dangereuses et très négatives. Mais j'ai vu dans ma vie qu'à un moment donné, ça se renverse et le probable commence à devenir improbable, comme lorsque l'armée rouge a résisté à Moscou et qu'au même moment, les États-Unis sont entrés dans la guerre. Et moi, je pense qu'il y a des prises de conscience qui peuvent surgir brutalement. Je pense qu'il y a des tournants. Autrement dit, j'ai misé ma vie sur l'improbable, déjà quand j'étais résistant, et je continue aujourd'hui. Donc je suis tonique, je suis volontaire, je suis ni optimiste ni pessimiste.
Pascal est en ligne pour dialoguer avec vous, Edgar Morin. Soyez le bienvenu sur Inter. On vous écoute, Pascal.
Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Morin. Vous venez parler de la résistance. Vous avez fait partie d'un réseau de résistance dans lequel vous avez eu comme compagnon Ubu. C'était son surnom. Est-ce que vous vous souvenez de lui ? Ubu, c'était mon papa.
Bien sûr, je Merci, me souviens Pascal. Très bien d'Ubu à Lyon. Et je me souviens que c'était un camarade. Et quand j'ai dû déménager la valise qui contenait le trésor de notre mouvement, c'est-à-dire des faux papiers, des faux tampons, des armes, des documents, des renseignements, etc. Cette valise, parce que la Gestapo était venue chez moi plutôt, j'ai eu le temps de la retirer avant. Cette valise, nous l'avons enterrée dans le jardin d'Ubu, à Collonges. Et donc, je me souviens très bien de cette période avec Ubu.
Pascal, est-ce que vous avez envie, vous le fils d'Ubu, de demander quelque chose en particulier à Edgar Morin ?
En particulier, non, j'aurais souhaité le rencontrer pour qu'il évoque un peu plus longuement mon papa.
Eh bien, on vous mettra en relation et on garde vos coordonnées, Pascal. Merci d'être intervenu. Michel est en ligne aussi au standard. Michel, depuis Avignon.
Oui, bonjour et merci de prendre ma question. Bonjour, monsieur Morin. Je m'interroge sur votre état de santé à 98 ans. Cette curiosité intellectuelle permanente, et je me pose la question de votre mode de vie, de votre activité physique.
Comment fait-il ? C'est ça, Michel ?
Oui, comment fait-il ? Voilà.
On va avoir cette forme ahurissante encore ce matin.
Edgar Morin, alors donnez-nous, comment on dit, les recettes pour bien vivre, ça c'est comme on dit dans les magazines. Comment vous faites ?
Écoutez, je crois que c'est l'amour, l'amitié, la curiosité qui reste toujours présente en moi.
Et un peu la DHEA.
La
DHEA que vous donne le professeur Beaulieu.
Ah,
ça
oui.
Vous racontez qu'il prenait
qui a presque son âge.
C'est-à-dire, je l'ai un peu arrêté.
Qui est une hormone de jeunesse.
Beaulieu m'a donné la DHEA. Mais il faudrait que je la renouvelle un peu maintenant.
Alors, il paraît que ce matin, vous avez pris beaucoup de guarana.
Voilà. Je prends. Non pas continuellement, parce que ça ne jouerait pas, mais effectivement, le guarana me donne des énergies. Mais je crois que tout ceci, ce sont des petits énergétisants, mais je crois beaucoup que c'est aussi le fond que je reste à peu près le même. C'est-à-dire que quand j'ai pris ma retraite au CNRS, la seule différence, c'est que ma rémunération a baissé, mais que mon travail a augmenté. Et que dans le fond, plus se sont répandues les idées de pensée complexe qui sont mon dada, plus je suis content de voir ceci et d'être en rapport avec ce mouvement qui existe dans le monde, dans différents pays. Donc, si vous voulez, je suis stimulé par la foi que j'ai dans mes idées aussi.
Mais justement, quand on a traversé un siècle aussi terrible et à la fois aussi passionnant que le XXe siècle, quand on a connu le nazisme, le stalinisme, quand on a connu les guerres de décolonisation, mai 68, bref, quand on a connu les grandes idéologies, Edgar Morin, et qu'on se retrouve aujourd'hui, en 2019, dans un moment d'une certaine manière, vous le disiez, post-politique, dans un moment où les idéologies ont presque disparu. Comment fait-on pour ne pas tomber dans le camp de la réaction, dans le camp du « c'était mieux avant » ?
Écoutez, d'abord, moi je considère que les idéologies n'ont pas disparu, mais elles sont nouvelles. Moi je considère que ce qu'on appelle le néolibéralisme économique est une idéologie et non pas une science. C'est une façon de concevoir l'économie, c'est pas la science économique. Donc nous vivons toujours dans des idéologies. Ce qu'il y a, c'est qu'elles n'ont plus ce caractère totalement religieux qu'ont eu le nazisme allemand ou le communisme universel, ça c'est sûr. Mais je pense que les problèmes fondamentaux restent, c'est-à-dire, quels sont les problèmes fondamentaux ? Dans l'histoire de l'humanité, et notamment dans le siècle, et actuellement encore, nous voyons ce que Freud appelait cette sorte de combat permanent entre deux ennemis inséparables, qu'il appelle Eros, c'est-à-dire les forces d'amour et d'union, et Thanatos, les forces de mort et de destruction. Et ceci est vrai dans l'histoire de la vie, comme dans l'histoire du cosmos. Et nous vivons ça sans arrêt. Nous voyons sans arrêt des gens qui veulent faire de la solidarité, qui veulent créer une civilisation de la convivialité, des meilleurs rapports humains. Nous voyons tout ça. Et nous voyons aussi des forces anonymes fondées uniquement sur le mépris ou sur le profit. Donc, dans cette histoire-là, dans cette chose où jamais Eros ne vaincra, et jamais Thanatos non plus, totalement, sauf à la fin des temps, moi je dis, on prend le parti d'Eros, et on se sent bien. Voilà, et c'est ça que vous pouvez appeler mon optimisme.
Vous dites, Edgar Morin, que votre vie a été guidée par la magnifique question d'Emmanuel Kant, « Que puis-je espérer ?» Aujourd'hui, à 98 ans, comment y répondez-vous à cette question, Edgar Morin ? Qu'espérez-vous ?
Je n'espère rien de précis. J'espère fondamentalement que le cours de l'histoire humaine pourra être modifié et pourra aller vers une autre voie que celle qui suit et qui, à mon avis, est désastreuse. J'espère ceci sans en avoir aucune certitude, parce que l'espoir n'est jamais la certitude. C'est cet espoir, mais je répète, le fait d'appartenir au parti d'Eros, c'est ça qui me donne l'optimisme.
Vous dites, l'idée de la mort m'arrive de temps en temps, tantôt comme une angoisse, tantôt comme un constat auquel il faut se résigner. Comment, à 98 ans, on affronte l'idée de la mort, l'angoisse de la mort ?
Alors écoutez, c'est une chose un peu bizarre. Parce que quand j'ai dépassé mes 80 ans, je me suis dit, maintenant je vais mourir d'un moment à l'autre. Ça me semble tout à fait normal que quand on est octogénaire, on meurt. Et j'ai été très surpris de voir que j'ai dépassé les 90 ans. Et d'une façon très bizarre, ça me semble tout à fait normal de continuer.
Donc, on vous souhaite...
Ceci dit, de temps en temps, comme vous le rappelez, j'ai une angoisse qui me vient. Mais les forces de vie qui sont en moi continuent à être très fortes. Les forces d'amour, tout ceci continue à me tonifier.
Merci beaucoup, Edgar Morin, d'avoir été au micro de France Inter. Je voudrais juste, pour vous saluer, vous remercier encore, vous lire. Ça fait vraiment longtemps que je fais de la radio et longtemps que je dialogue avec les auditeurs. Je crois que c'est la première fois que je lis un message aussi simple via l'application d'Inter. C'est Cécile qui me demande de vous dire la chose suivante. Edgar Morin, je vous aime. Voilà, le message est transmis.
Eh bien, c'est très aimable et ça me fait du bien.
Merci encore, Edgar Morin. Les souvenirs viennent à ma rencontre, vos mémoires, publiées chez Fayard.